I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, fripes, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon saison 8, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir le dressing d'une jeune femme que l'on peut qualifier de couteau suisse. Styliste depuis 10 ans pour des marques de mode, des grandes maisons et des agences de pub, Clémence Cahu est aussi coach à la Fédération Française du Prêt-à-Porter, DA, directrice artistique, scénographe, personal shopper. Elle a aussi créé sa propre marque de sac à partir de toiles PVC de châteaux gonflables. Pour elle, la mode est un peu conçue pour être utilisée, pour durer et pour impressionner. Bonjour Clémence.
Bonjour Valérie.
Alors, écoute, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à résumer ton parcours. Pourtant, tu es encore très jeune.
Oui, c'est vrai.
Alors toi, carrément, parce que généralement, pour les auditeurs, je demande aux invités de me créer une petite bio sur eux. Toi, tu m'as balancé ton CV. Et donc là, quand j'ai vu le CV, je me suis dit, oh là là. Donc, tu es passée par Canal+, Grazia, L'Équipe, Nelly Rodi, les Galeries Lafayette, et j'en passe. Bon, Clémence, qui es-tu?
Bonjour, je suis Clémence Cahu. J'ai 34 ans pour répondre à cette question mystère et je n'ai absolument pas peur de le dire. J'ai menti sur mon âge de mes 19 à mes 29 ans.
Comment ça, t'as menti sur ton âge?
J'ai essayé d'être un peu plus vieille et surtout j'ai essayé de feinter la question.
T'as essayé d'être un peu plus vieille, ouais. À l'époque où on prône le jeunisme, c'est pas mal.
Exactement.
C'est osé.
Ah ben c'est moi, voilà, c'est osé. Non, mais en fait, j'ai commencé très tôt, à 19 ans, en étant rédactrice en chef accessoires, horlogerie et joaillerie au Citizen K. Et très rapidement, les agences de publicité ont fait appel à moi et m'ont demandé, en fait, de monter sur des gros jobs. Donc, rapidement, j'ai eu des très gros jobs, même chez Nelly Rodi ou autre. Et donc, je feintais un peu cette question, puisqu'en France, si t'es jeune et que t'es pas dans une case, c'est compliqué.
Et si t'es vieille? Passer 45 ans, si tu rentres pas dans une case, c'est compliqué. Où allons-nous, ma petite dame?
Où allons-nous? Ouais, exactement.
Alors, qu'est-ce que tu as fait comme études? J'aime bien pour les jeunes qui nous écoutent.
Bien sûr. Alors, il n'y a pas de parcours type, hein, quand même, pour arriver à un métier justement aussi hétéroclite, mais j'ai commencé. Donc, je viens de Normandie, je suis partie à l'âge de 15 ans de chez mes parents, puisqu'à Saint-Hilaire-du-Harcouët, nous n'avions pas d'école de mode. Donc, à 15 ans, je suis partie, j'ai fait art appliqué.
Ensuite. Tu as eu le bac à quel âge?
J'ai eu le bac à 18 ans, classique. Mmh. Je suis arrivée à 18 ans et un jour, permis en poche à Paris. J'ai fait Chardon-Savard à Paris. Et en fait, donc Chardon-Savard, c'est une école de mode en 3 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai fait un stage au Citizen K. Et Capoff m'a proposé le poste de rédactrice en chef de la partie accessoires, horlogerie, joaillerie, que j'ai accepté. Et en parallèle, du coup, j'ai continué l'école. Donc, le matin, j'allais très tôt à l'école, je montrais mes dossiers. Ensuite, j'allais au Citizen K. J'ai acheté un scooter, donc il y a 15 ans, à cette époque-là. Et le soir, je rentrais, je bossais toute la nuit sur ma collection, que je remontrais le lendemain matin à un prof qui me le corrigeait. Ensuite, donc ça, c'était il y a un bon moment maintenant. Et en parallèle de tout ça, j'ai commencé à faire des campagnes de publicité pour des agences de publicité, justement. J'ai travaillé avec Nelly Rodi à la sortie de l'école, puisqu'elle était dans mon jury de
Nelly
fin d'année.
Rodi, qui est bureau de tendance. Nelly Rodi, pardon, qui est bureau de tendance.
Bureau de tendance et qui est vraiment... d'ailleurs, j'ai travaillé avec elle personnellement. C'était incroyable. On travaillait sur 4 thématiques par collection. Donc, printemps, été, automne, hiver. Et via ces 4 thématiques, on faisait 4 shoots avec 4 photographes très différents. Donc, entre le Citizen, les campagnes de pub et Nelly Rodi, j'ai travaillé avec un spectre de talents ultra 360 qui m'a en fait rapidement créé justement cet écosystème dans la mode, la pub, etc.
C'est comme ça que tu t'es fait connaître.
C'est comme ça que très rapidement, j'ai été un peu invitée dans des events à la fois de skateurs et Place Vendôme. C'est qu'en fait, j'étais ce caméléon, ce 4x4 en fait, de la mode sur une... À l'époque, quand même, sur une partie un peu plus édito, puisque c'était plutôt lié au magazine. Et puis, en fait, rapidement, après, ça s'est élargi au personnel shopping pour les Galeries Lafayette, pour Le Bon Marché. J'ai habillé Daphné Burki pendant plusieurs années.
Que l'on salue.
Que l'on salue. Etc, etc. Et en fait, c'est que, entre guillemets, au bout de 10 ans que je me suis vraiment posée en me disant...
Ouais, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est exactement styliste, même sur un... Allez, pour une publicité, par exemple.
Alors, ce qui est drôle, c'est que même moi, je ne connaissais pas ce métier quand j'ai commencé à le faire. Donc, quand je me suis quand je suis arrivée au Citizen K et qu'au bout de 2 semaines de stage, on m'a dit « Voilà, t'as le poste de rédac chef sur la partie accessoires », je me suis retrouvée sur un shoot et j'ai fait des bourdes. J'ai fait une photo nature morte avec une chaussure Louboutin. Kapoff est venu me voir en me disant « Mais en fait, jamais, jamais on shoot un focus produit avec une marque non annonceur. Jamais. »
Évidemment.
Chaussure qui est quand même, en fait, sortie. Donc, la page est passée. Il l'a tellement aimé qu'il l'a passée. Mais je me suis ramassée un savon juste avant quand même. Donc, j'ai fait des petites bourdes. Mais en fait, moi, je ne savais pas ce métier. Concrètement, mes parents me disaient « Petite, tu veux tout savoir et rien payer. Tu es beaucoup trop curieuse, machin, etc. » Et en fait, finalement, la meilleure école pour ce type de job, c'est la curiosité. Donc, à vouloir comprendre ce qui se passait dans le business, à vouloir tout voir, tout comprendre sur la création, etc., c'est comme ça que je suis arrivée à faire ce métier de styliste qui, du coup, est un... Le stylisme photo et la direction artistique, c'est en quelque sorte être chef d'orchestre d'un écosystème de talents qui passe de la maquilleuse à la coiffeuse, enfin, coiffeur-maquilleur, au mannequin, au photographe. Et tu dois vraiment, à partir d'une idée, booker une équipe qui fait référence justement à tes inspirations. Et ensuite, tu coordonnes tout le monde pour qu'à la fin, les photos ou les vidéos... aujourd'hui, ressemble à quelque chose qui, en tout cas, a été issu d'une inspiration, d'une demande, si c'est un client, si c'est un magasin.
Parce que stylisme, souvent, on pense que tu habilles juste les gens. C'est pas ça.
C'est l'opposé. C'est-à-dire que moi, finalement, j'habille plus. Je fais tout avant.
Si, sauf quand tu faisais du personal shopping.
Exactement. Mais concrètement, le vêtement, je le touche finalement très peu. Mm. Ce qui est, en fait, assez paradoxal. C'est-à-dire que c'est vraiment l'issue de semaines entières de boulot.
Tu as toujours rêvé de bosser dans la mode ?
J'ai toujours rêvé de bosser dans la mode, oui, clairement. En fait, si je fais ce métier aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu à l'âge de 5 ans les 101 Dalmatiens et que Cruella d'Enfer était ma target.
Ah oui, en plus gentil.
Alors, ma maman m'a expliqué que c'était la méchante dans le dessin animé, mais je n'en démords toujours pas aujourd'hui. Ça reste mon égérie ultime et vraiment ma target de vie, c'est-à-dire que j'aime les bagnoles comme elle, je ne fume pas. Je ne tue pas d'animaux, mais elle est styliste et les passages du dessin animé où on la voit travailler dans cet espace incroyable, les carnets de croquis, les trucs, etc., c'était vraiment ce que à 5 ans, c'était ma target, quoi. Donc j'ai construit ma vie autour de cette idée. Et aujourd'hui, si je suis habillée tout en noir, c'est peut-être finalement pas par hasard. C'est que cette femme m'a vraiment inspirée.
Et tu t'habilles toujours en noir, non ?
Je suis toujours, toujours, toujours en noir. Pour deux raisons. Parce que je suis en scooter ou en deux roues à Paris et qu'en fait, Paris, c'est quand même assez poussiéreux. Donc, tu me mets avec un jean blanc sur un scooter, je ne ressemble à rien. Et je pense que c'est... Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que ça m'a durci entre mes 20 et mes 30 ans. Donc, ça m'a aidé un peu dans mon métier.
Ah ouais, paraître plus mûr. Le noir, ouais.
Ouais, ça durcit. Donc, il y avait une sorte d'autorité dont j'avais besoin pour dérouler les jobs qu'on me confiait. Mmh. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un statement grâce à cette couleur que je ne retrouve pas, mis à part les couleurs de Albert Elba chez Lanvin, qui sont les seules couleurs qu'aujourd'hui je porte. Mmh. Sinon, non, il n'y en a pas.
Oui, c'est vrai que tu es arrivée aussi avec un Kaway Balenciaga noir.
Exact. Noir.
C'est vrai que je remarque, même tes sacs sont noirs.
Mon sac est noir, mon grand sac est noir, mon petit sac est gris et noir. En fait, je pense que ma marque, c'est une thérapie.
Clairement. Alors justement, parlons de justement, en plus de toutes tes activités, tu as trouvé le moyen, entre deux rendez-vous ou la nuit peut-être, de créer une marque de sac en 2016. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Avec grand plaisir. Donc, mon papa, qui était DJ de ses 20 à ses 30 ans, a fait un point avec ma maman, qui voulait que mon père change de job, puisque ce n'était pas un job quand même très sérieux. Donc, il a décidé de devenir fabricant de châteaux gonflables. Les châteaux gonflables, ce sont les grands jeux que vous avez sur la plage, les Mickey Club, mais il a aussi fait tout Interville, les X Games, enfin voilà, c'est le leader.
Je ne voyais pas ce que c'était quand j'ai préparé l'île. Je me dis, mais c'est quoi ce truc d'accord?
C'est la grande girafe que tu as sur la plage, mais c'est aussi les matelas de réception pour les X Games, les arches d'arrivée du Tour de France, tout.
Donc beaucoup de choses.
Beaucoup, surtout quand tu es leader sur le savoir-faire full français du château gonflable. Donc moi, j'ai grandi dans cette boîte. Donc, ce qui m'a permis de devenir à la fois très créative, comme tu peux l'imaginer, et en même temps, une vraie chef d'entreprise avec ce que ça implique, puisque j'ai vu mon père, voilà, avec tous les états d'âme que tu peux avoir quand tu gères une boîte. Aujourd'hui, ils sont 70, donc c'est, ça reste une grosse boîte.
Et en fait, tu t'es dit, t'as repris des chutes, c'est ça?
Et en fait, quand j'étais sur les shoots, en gros, grosso modo, je passais des shoots au show. J'avais toujours des sacs, soit Ikea, soit Céline. Moi, je suis en scout, donc j'avais besoin de sacs pratiques. Et les trois quarts du temps, je les défonçais avec la pluie, avec mon manque de rigueur face à ces sacs de luxe. Et donc, je me dis, il manque un sac qui soit entre le Ikea et le Céline. Et après, je me suis dit, oh, je ne vais pas prendre un truc Fractal. C'est quand même pas assez bien fait pour moi. Ce n'est pas assez fini. J'aime trop le luxe. J'ai vu de trop belles pièces pour arriver à ce genre de sac. Donc, j'ai récupéré un week-end des chutes de toile de Château Gonflable que j'ai utilisées petites, hein, pour le cache-roue du 4x4 de ma mère, pour les trousses pour mes Posca à l'école, etc., etc. J'ai appelé une nana qui bosse chez Vuitton et je lui ai dit, voilà, j'ai besoin de comprendre en quoi Vuitton, qui fait des sacs avec une toile PVC, est capable de faire un sac haut de gamme qui est justement avec un savoir-faire haute maroquinerie sur donc, les parties en cuir. Elle m'expliquait qu'il y avait les teintures de tranches, les points à la main, les piqûres celliers, etc. Donc, j'ai dépiauté le sac. Je me suis dit, OK, il faut qu'avec cette toile, j'arrive à faire un sac résistant, intemporel, qui soit ultra pratique.
Parce que oui, c'est ça. Tu envisages le... Tu dis que KU, avec KU, tu envisages le luxe, je te cite, comme un état d'esprit et un geste quotidien.
Exact. Moi, ce que je veux, c'est le meilleur ami du quotidien. Il faut que ce sac devienne vraiment le fourre-tout de ta vie, que ce soit pour le sport, les enfants, les courses, ton pull, la lunchbox, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que à date, soit tu as un Vanessa Bruno ou un bon ton en toile, oui, mais qui quand même s'use parce que c'est une toile coton. Soit tu as un Ikea qui est pas mode et qui a pas tout le savoir-faire mode, mais t'as pas un sac pratique qui soit à la fois luxe et meilleur ami du quotidien. Donc c'était mon challenge.
Est-ce que tu peux me parler de KUTV? Parce que c'est comme ça que je t'ai repéré, figure-toi, ma chère amie.
Alors,
et je vous encourage à aller sur le compte Instagram de Camille, de Clémence, pardon, pour regarder KUTV. JTKU, pardon, JTKU.
Oui, alors, ça fait 5 ans que la marque existe. Et en fait, plus les années passent, plus on me dit, il faut vraiment que tu te mettes en avant. C'est toi qui as eu, c'est ton nom de famille. Tu le mets pas, tu te mets pas, ton visage n'est pas assez front de caméra au fur et à mesure des posts Instagram. Donc, je me suis dit, je vais me mettre front de caméra, mais pour la bonne cause, puisque j'ai beaucoup de questions de clientes qui me demandent, mais c'est quoi la taille? Mais on met quoi comme ordinateur dans la pochette, etc. Donc, j'ai demandé à mon ami Alexandre Pommier, qui est un génie sur pattes et un chaton sur pattes. Et je lui ai dit, voilà, j'ai besoin de faire de façon très habile et en full one shot. Donc, c'est uniquement
en one
d'impro.
Shot en une seule fois.
One shot, c'est en une seule fois et full impro. Et on va faire un format JT. Donc, moi, je suis une folle hystérique d'Ardisson, Canal+, vraiment tout, même le late show de Chabat en décembre dernier était dingue et c'est tout ce que j'aime. Et je lui ai dit, voilà, on va faire dans cet univers-là, une espèce de JT, et je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées. Et puis, en même temps, ça va montrer mon visage, c'est super, on va signer la case, il faut que j'incarne la marque. Donc, on a créé ce JTKU qui va exister encore, j'espère, longtemps, puisqu'on développe des concepts et des concepts au fur et à mesure des mois.
As-tu une éducation à la mode?
Absolument pas.
Entre un papa DJ et ta maman,
qu'est-ce alors que... ma maman, elle a rien à voir. Elle vend des produits pétroliers pour la partie ouest de la France, qui est du coup un business qui n'a rien à voir avec la mode. Cependant, ce qui est très drôle, c'est que ma maman, elle est fille de commerçant et mon papa, il est fils d'agriculteur. Donc d'un côté, j'ai une maman qui a toujours eu des sacs Vuitton avec le all-over. Voilà, elle m'a toujours expliqué.
Ah, donc tu as eu une éducation au luxe.
Et j'ai eu une éducation au luxe et elle adore les voitures, les beaux objets en général. C'est une famille extrêmement coquette. Elle a toujours eu des parfums hyper forts, voilà. Et donc, cette famille-là de commerçants était dans un esprit comme assez haut de gamme, même si je viens d'une microscopique petite ville de Normandie. Et mon père, à l'opposé, donc fils agriculteur, lui, c'est low profile. C'est-à-dire qu'il a une belle boîte qui fonctionne bien, mais il a toujours été avec un sweat Doc Dupont DDP, pour ceux qui vont, qui vont faire le lien, et des pantalons cargo Quicksilver avec des bateaux aux pieds. Je ne l'ai jamais vu ni rasé, ni avec un costard cravate. Enfin, voilà. Donc, c'est deux salles, deux ambiances, comme une discothèque
ouais,
de province.
Ouais, mais c'est peut-être ça qui t'a donné cette singularité.
Alors, ça m'a clairement aidée. Parce que aujourd'hui, je suis dans un monde de paillettes sur la partie mode, mais je n'ai jamais touché aucune drogue. Je sais exactement que je suis dans ce milieu.
J'adore la précision, je n'ai jamais touché aucune
drogue.
Non, mais
en vrai, quand tu es dans ce milieu et quand tu vois la vie qu'on a, j'en ai vu passer tous les jours, j'en vois passer. Mmh. Mais en fait, je n'y ai jamais touché parce que j'ai ce... Comme dirait mon père, je n'ai pas oublié mon bon sens paysan. Et en fait, je suis restée straight. Et je n'ai jamais voulu arriver, tomber dans cet univers de paillettes parce que j'ai été éduquée de façon comme ça, totalement bipolaire.
Je dirais que tu as tout simplement les pieds sur terre.
Sûrement. Enfin, j'ai la chance d'avoir cette double éducation qui m'a permis aujourd'hui de garder les pieds sur terre.
Donc, un conseil que tu aurais donné ta maman au niveau mode, pas du tout.
Je pense que ma maman m'a éduquée aux belles choses. Donc, le conseil qu'elle m'a donné, mais sans le vouloir, hein, ça a toujours été implicite, c'est d'avoir moins mais mieux.
Moins mais mieux. Et c'est ce que tu donnerais, toi, comme conseil ?
Ah bah aujourd'hui, ma marque, par exemple, c'est moins mais mieux. C'est-à-dire que je ne revendique pas un excès de zèle de stylisme sur le design des objets que je fais pour la marque. Je ne fais que des sacs qui sont dictés par la pratique. C'est-à-dire que la forme est dictée par la fonction.
En tant que, quand tu étais styliste sur les plateaux télé, ou même personal shopper, parce que finalement, c'est un petit peu la même chose.
Exact.
Là, pour le coup, tu habilles les personnes. Qu'est-ce que tu donnais comme conseil ou tu cherchais pour, par exemple, on va reparler de Daphné, qu'est-ce que tu cherchais des vêtements pour elle, mais est-ce que tu leur donnais des conseils aussi?
Alors, moi, ce que je demandais tout le temps, c'est est-ce que tu es bien dedans? Parce qu'en fait, un vêtement, tu dois l'incarner. Donc, si t'as un vêtement qui est certes à la mode, mais qui, à côté, ne te convient pas et t'as l'impression d'être déguisé, ça n'a aucun sens. Daphné, elle a un sens hyper aiguisé du tissu, de la qualité. Donc, tu lui mettras jamais un synthétique parce qu'elle grille direct que c'est un pot de singe, tu vois. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de lui trouver de beaux vêtements qu'elle aimait et qu'elle incarnait. Au moment du grand journal, elle était enceinte et on a mis un point d'honneur à ne jamais prendre de vêtements de grossesse de marques issues justement des futures mamans, machin, etc. Parce que elle aime les beaux vêtements, elle aime les beaux objets et que le challenge était de trouver. Donc on a bossé avec Stella McCartney qui avait des robes qui n'étaient jamais avec des tailles très serrées ou ce genre de sujet. Mais pareil pour le personal shopping, je leur ai dit, mais moi, je ne vais pas vous coller une robe imprimée panthère parce que c'est à la mode en fait. J'ai besoin de décoder votre vie, votre personnalité et...
Tu décodes la vie de la personne avant.
Ah oui.
C'est-à-dire on veut tout savoir.
En fait, je posais des questions qui d'ailleurs surprenaient beaucoup. Moi déjà, le premier truc que je faisais, c'était de les appeler avant le rendez-vous pour savoir un peu qui, quoi, où, quand, comment, quelles étaient les fonctions du vêtement au quotidien. Tu vois, moi par exemple, je suis en scooter. Tu vas pas me mettre une jupe crayon, sinon sans aucun problème, je te la dégomme.
Je crois que c'est la première fois qu'on parle de fonction du vêtement au quotidien.
Mais en fait, t'as pas le choix. C'est-à-dire que quand, par exemple, pour les campagnes de pub, je voyage énormément. Bah, quand tu te prends 15 heures d'avion, mais que bon, vis-à-vis du client, tu dois avoir un peu une tronche stylée, eh bien, tu vas chercher des vêtements qui, comme un Margiela ou un Issey Miyake, sont extrêmement confortables. Mais qui, à côté, ont de la gueule. Enfin, tu vois, c'est un truc de dégaine, d'allure.
C'est pas le vieux jogging.
C'est pas le vieux jogging, mais en même temps, je regarde Karine Rothfeld avec vraiment admiration parce que, pour moi, les vêtements qu'elle porte, j'adorerais voir sa silhouette et ses vêtements, mais concrètement, je ne pourrais pas, au quotidien, assumer un scooter, un avion, des valises à trimballer et tout avec ce look.
Des jupes crayons, non, c'est pas tout à fait, c'est pas possible. Quel est ton style, d'ailleurs, à part le noir et...
Mes amis m'envoient beaucoup de captures d'écran de look de Batman et de Matrix. Donc, je pense être un mélange entre Batman et Matrix.
Pourquoi ? Pourquoi elle t'envoie ça ?
Parce qu'il y a du cuir, parce qu'il y a du noir, parce qu'il y a de la structure, parce qu'il y a... Moi, c'est vraiment dans les lignes. Mon créateur favori, c'est Martin Margiela, mais vraiment à l'époque de Martin. Parce que... Et aujourd'hui, je trouve que Balenciaga avec Demna, c'est comme... Bon, après, il était élève de Martin, donc chez Margiela, donc ça fait sens, mais... C'est la coupe du vêtement qui va faire la silhouette, c'est une épaule, c'est un tissu qui tombe avec un aplomb, etc. Donc, mon style, oui, c'est entre Matrix et... Matrix et Batman, ça me va.
À quel âge l'as-tu trouvé ?
Mon style ?
Ouais.
Je pense que je l'ai trouvé autour de 25 ans.
Quand tu voulais t'imposer, justement ?
Quand j'ai eu accès aux pièces...
Ah oui.
Qui tout d'un coup
oui,
fait sens.
Que c'est... Oui, c'est...
Parce que au lycée, j'étais à Laval. Donc, à part Cache-Cache et Pimki, il ne se passait pas grand-chose dans ma vie. J'étais pas une jeune fille styliste qui créait des vêtements avec sa machine à coudre dans un coin, pas du tout. Hein. Moi, j'ai plutôt détourné des trucs. Plutôt... Par contre, j'étais... j'étais prescriptrice sur la partie vêtements de mec sur de la femme, le pull de mon père Newman revisité avec une robe, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le, tu vois, le masculin féminin, le streetwear sophistiqué, tout ça.
C'était hyper tendance.
À l'époque, je le faisais.
C'était avant-gardiste, pardon.
C'était méga avant-gardiste parce que j'étais une extraterrestre, ouais.
Et le regard des autres dans tout ça ?
Moi, je pars du principe que karma is a bitch. Donc,
karma is a bitch, c'est pas mal.
Karma is a bitch. Donc, je n'ai jamais fait de sale coup parce que d'un, je n'en suis pas capable. Et de deux, je pense qu'un jour, tu te reprends un revers de médaille dans le museau. Donc, le regard des autres, il est... Et je touche du bois, de la peau de singe. À date, il est hyper bienveillant parce que je suis tombée aussi sur des personnes qui m'ont fait confiance. En fait, aujourd'hui, si je fais ce métier... C'est parce que j'ai rencontré Nelly Rodi. Ensuite, j'ai rencontré Daphné Burki. Ensuite, j'ai rencontré Capoff. Ensuite, j'ai rencontré Antoine Choc chez BETC, etc., etc. Et toutes ces personnes qui m'ont challengée sur des missions et des métiers que je ne connaissais pas m'ont tellement fait confiance que je ne voulais pas décevoir ces personnes. Et donc, du coup, leur regard était tellement bienveillant et challengeant que j'ai toujours été une machine de guerre pour que tout le monde soit ravi, content, on fire de ce que je montrais. Donc, en fait, j'ai attiré pour les très grands cette espèce de bienveillance et de challenge. En tout cas, ils m'ont fait confiance.
Et de respect.
Et de respect, du coup. Et pour les plus jeunes, c'est un regard à la fois... je pense que ce soit mon équipe ou en général, c'est à la fois la curiosité... La crainte et...
Ça te fait rire quand tu dis la crainte.
Oui,
ça,
parce
tu te
que
sens cru, là, c'est...
ça n'a pas de sens. Et qu'en fait, c'est pas parce que je suis un peu arty, brouillon, parfois, dans ma façon de réfléchir, parce que je pense à beaucoup trop de trucs en même temps, que je suis une extraterrestre, tu vois. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui veut un truc très dicté. On veut que tout rentre dans une fiche de poste, tu vois. Mais en fait, non, il n'y avait pas de fiche de poste, les copains. Enfin, on est des couteaux suisses et c'est encore plus cool de pouvoir sortir de ces frontières. Donc, le regard est hyper aléatoire, mais en tout cas, plus les personnes face à moi sont importantes, plus le regard est bienveillant. Donc, j'ai de la chance.
As-tu le souvenir d'un fashion faux pas ?
Non, j'en vois tous les jours parce que...
Non, mais toi, sur toi.
Ah, sur moi ? Un fashion faux pas, oui, ça a plus... je pense que les plus gros fashion faux pas, c'était... je sais pas si je shoot pour une marque, c'est d'emporter une autre qui est concurrentielle ou qui en tout cas énerve particulièrement un directeur de création.
Ah oui, c'est pas du tout.
Mais il n'y a pas de fashion faux pas.
Il n'y a pas de.
Si tu l'incarnes, comme on le disait tout à l'heure, si tu l'incarnes, tu n'as pas de fashion faux pas. Et toutes ces baskets que tout le monde porte avec des robes sophistiquées aujourd'hui, quand tu le faisais il y a 10 ans à Paris, c'était un fashion faux pas, mais tu regardes les acheteuses coréennes qui étaient au premier rang il y a 10 ans des défilés. Fait belle lurette qu'elle porte des Salomon aux pieds avec des robes comme des garçons. Donc le fashion faux pas n'existe pas si toi tu l'incarnes et si tu le revendiques, quoi.
Quel vêtement que tu ne porteras jamais ?
Un jean blanc.
Ah, parce que à cause du scooter ou parce que ça vraiment.
Parce que je ne porte pas de jean tout court, encore moins du blanc. Et parce que je suis une sale gosse, donc ça ressemblera à rien, quoi. Oui, je fais pas attention à mes vêtements. J'ai explosé 200 robes en travaillant ou en roulant. Enfin, je porte des très beaux vêtements, pas en trekking, mais dans des
conforts qui comptent avant tout pour toi.
En fait, j'ai pas envie de réfléchir le matin quand je m'habille à.
Mais c'est ce que j'allais te demander le matin.
J'ai pas du tout envie de réfléchir à est-ce que c'est la bonne pièce pour la bonne journée.
Donc non. Là, t'es venue chiffonner avec moi. T'as mis une robe, t'as enfilé une robe. Comme
j'ai
ça.
Enfilé ma. Oui.
Sans te poser la question.
Ah, je me suis absolument pas posé la question de si ça allait correspondre à la journée.
Si tu devais garder un seul vêtement de ta garde-robe.
C'est une très bonne question. Je pense que je garderai une veste Martin Margiela qui a défilé, que mon ami Alexandre Sanson à Galliera veut absolument me piquer pour le musée, mais que je ne vais jamais lui donner. En fait, elle est recouverte, elle est noire avec les épaules, la vraie Margiela, noire avec les épaules de dingue, pointues. Et elle est full, elle est entièrement rebrodée de sequins mat qui sont en dégradé du blanc au noir en passant par tous les gris. Et pour moi, c'est la pièce la plus emblématique de ces collections. Et cette pièce, j'ai eu la chance de l'acheter chez Margiela à l'époque. Et en fait, je me dis tous les jours que c'est une chance parce que c'est une pièce qu'ils n'auraient jamais dû sortir de leurs archives. Je me sens presque un peu coupable d'avoir une pièce qui peut-être n'est même plus chez eux, en fait.
Où puises-tu ton inspiration ?
Partout.
T'es du genre à mater dans la rue
Ah, mais c'est terrible parce que je passe mes journées à dire « Dis Siri, peux-tu ajouter au calendrier ?» Et en fait, quand je suis en scout, je vois tellement de trucs que je demande à Siri de me noter tous mes trucs. Alors, des fois, il me dit « Vous avez déjà 7 rendez-vous à cette heure-là. » Mais c'est que des mémos, que des penses bêtes. Mmh. Tout le temps, pour tout. Je me
t'as
dis,
Et t'es déjà arrêté des gens dans la rue pour leur demander la marque de leurs vêtements ?
Je l'ai fait à l'étranger, mais pas en France.
Pourquoi ?
Parce qu'en France, si tu le fais, les gens te regardent bizarrement. C'est un peu... Tu vois, aux États-Unis, à Los Angeles, tu fais ça, tu partages tes inspirations, tu rigoles avec les gens, tu leur demandes, c'est cool. En France, ça fait chier tout le monde, quoi. Bizarrement.
Ben justement, qu'est-ce que tu penses du mythe de la Parisienne ?
Alors moi, j'aime beaucoup cette élégance un peu tout-terrain du matin jusqu'au soir, c'est cool. Je trouve ça chouette de ne pas passer du leggings à 10h à la robe full sequin 22h. Je pense qu'effectivement, en fait, plus je voyage, plus je me dis qu'il y a vraiment un style parisien. Et je trouve que ce masculin-féminin qu'on a à Paris, qui peut être en fait aujourd'hui représentatif d'une image comme celle d'Officine Générale, où tu vois toutes ces maisons qui sont quand même... ma mamie, hein, aujourd'hui, joue à fond là-dessus. Je trouve que ça vient de cette parisienne un peu... Alors nous, on dit toujours, par exemple, quand on brief un coiffeur sur un shooting, on dit « on veut une coiffure effortless », tu vois. Qui, bon, est un peu un discours de vraiment de nana de la mode, mais ce truc un peu effortless, c'est-à-dire mine de rien, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est...
Mais c'est pas si facile que ça à obtenir.
C'est pas si facile que ça, et si t'as pas justement ce fameux charisme, ou en tout cas cette élégance naturelle, bah, en fait, tu même si t'as un beau jean, tu l'as pas, quoi, le look.
Donc là, au moment où on enregistre, la Fashion Week Homme vient de se terminer. Qu'as-tu pensé du défilé Jacquemus et l'énorme show Louis Vuitton ?
Alors, le défilé Jacquemus, moi, je suis de près Jacquemus parce que c'était mon stagiaire quand j'étais au Citizen K il y a 15 ans. Donc Simon, je l'ai rencontré quand il venait tout juste d'arriver à Paris et je suis très contente d'avoir suivi toute sa... Parce que je me souviens du défilé Avenue Montaigne, tu vois, la manif et tout ça, donc... Je trouve qu'il a explosé, que les bonnes personnes au bon moment lui ont fait confiance. Tu vois, Broken Arm, la team comme des garçons et tout. Donc, c'est un très bel exemple. Et je trouve que ça grimpe très bien. Et il a une chance de dingue. Le défilé, je l'ai trouvé chouette parce qu'il a partagé toutes ses inspirations, les Didi, etc.
Oui, il a partagé son tableau, son mood board. Mais je te cite ces deux défilés qui, pour moi, ces deux shows qui m'ont un peu choqué parce que je trouve qu'on ne mettait pas assez en avant les créations et les vêtements. Maintenant, on mise tout sur la scénographie, justement.
Exact.
Toi, en tant que styliste, en tant qu'amoureuse du vêtement, parce que tu l'es amoureuse du vêtement,
exact.
Ça te dérange pas ?
Si. Alors, Vuitton, non, parce que j'ai trouvé les silhouettes très réussies.
Mais on les voyait mal, mais bon.
On les voit mal, mais j'ai trouvé qu'on l'a attendu, Farrell, et que le job est fait. au-delà de tous ses copains à la fin. Mais il a salué d'ailleurs toute l'équipe qui était là, et c'est très chouette parce qu'il a mis en avant un studio qui en fait a grave fait le boulot.
Oui, je crois qu'il a fait défiler les petites mains, oui, aussi, c'est ça.
Exactement. Ce qui est
comme le faisait Karl Lagerfeld aussi.
Comme le faisait Karl. Mmh. Et je trouve ça chouette parce qu'effectivement, je pense que le studio a vraiment œuvré. Ensuite, Jacques Musse, il a montré son moodboard et pour moi, il a fait défiler son moodboard. Mmh. C'est-à-dire que le vêtement, tout était moodboard. Mmh. Moi, je ne me projette pas du tout sur la collection commerciale qui va en découler. Les sacs étaient portés comme des présentoirs. Donc, on mettait clairement le message que le sac était le gagne-pain d'une maison. Là où Vuitton, c'était peut-être un chouille plus subtil, même si bon, au quotidien, on sait très bien que ces deux maisons vendent plus que tout de la maroquinerie. Farrell a vraiment construit des vêtements, a travaillé les matières et tout, donc le challenge est réussi. Jacques Musse a montré que c'était de la com et de l'image et que le vêtement était secondaire. Ouais.
Qu'est-ce que tu penses d'Instagram ?
Alors, moi, Instagram, c'est mon outil de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'utilise Instagram pour soit montrer les sacs sur le compte KU, soit pour montrer mes jobs et ma vie sur mon compte, ce qui me permet de continuer de travailler avec des gens extrêmement différents. C'est mon CV.
C'est important de le dire.
Ah, en fait, tu verras jamais la tronche de mon mec et ce que je mange le midi. Jamais. Je shoote pas mon bol de quinoa et tu verras pas la tronche
de mon mec.
Et l'avocado toast. Non, jamais. Parce qu'en fait, on s'en fout et que c'est le jour où je deviens influenceur food, tu le verras. Mais à date, c'est vraiment pas le cas. Donc aujourd'hui, moi, c'est presque mon deuxième agent. C'est mon outil de travail et c'est pour ça que je suis intense dessus. C'est qu'en fait, les gens aiment voir ce que je fais et moi, ça me permet de communiquer sur mon métier.
Alors, je demande toujours qui est l'icône de mode. On a eu la réponse.
C'est Cruella,
évidemment. Quelle est ta définition de l'élégance ?
Less is more. Clairement. Moins mais mieux. Maman KU, si tu m'entends, c'est ça.
Merci beaucoup, Clémence.
Mais merci à toi. Et comme dirait une autre Valérie, merci pour ce moment.
Pas mal, pas mal. Merci. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.